Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de Radio Foot International sur la Radio du Monde. Et nous commencerons aujourd'hui par la Coupe du Monde au Qatar, le rêve de toute une nation. Cette nation, c'est celle de l'Ukraine. Face à l'Écosse, la sélection ukrainienne tentera de se qualifier pour le prochain mondial, mais surtout d'offrir de la joie à la population qui subit l'attaque des forces russes actuellement. Un enjeu plus patriotique que sportif, les Écossais en ont bien conscience du poids émotionnel de ce barrage. La finalissima, un match de gala opposant à Londres les champions d'Europe et ceux d'Amérique du Sud. Italie-Argentine et du beau monde sur la pelouse de Wembley. Mais quelle valeur attribuer à ce trophée intercontinental ? Consolerait-il les Azzurri privés de mondial ? Leur sélectionneur Mancini est plein d'ambition pour son groupe. Erling Haaland, le buteur norvégien presque citizen, annoncé au 1er juillet prochain. Mais le jeune prodige se fondra-t-il avec facilité dans le style Pep Guardiola ? Certains s'interrogent. Et puis toujours en Premier League, Paul Pogba quitte Man U en catimini et Sadio Mané est donné partant. Mais n'est-ce qu'une rumeur ? Eh bien, je suis sûre que vous avez la réponse sur Romain Gara. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Gardez-nous le secret jusqu'au chapitre de cette émission. Bonjour Salim Bomgali.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Notre ami d'RMC Sport et puis Naïm Moniol.
Salut,
bonjour
Annie,
Naïm.
Salut à tous.
C'est la Dream Team du jour ici à Radio Foot International avec en plus Laurent Salerno à la réalisation et David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. À Radio Foot, c'est parti.
De Zinchenko, Kylian libéré l'Ukraine. C'est quasiment un but en or pour l'attaquant ukrainien. Le centre de Zinchenko, il va éviter à l'Ukraine une séance de tirs au but dans le temps additionnel de la prolongation. Artem Dovbyk, et c'est terminé. L'Ukraine rejoint l'Angleterre en quart de finale de l'Euro 2020.
Et oui, quart de finaliste de cet Euro 2020, les Ukrainiens. Ce soir, 90 minutes pour oublier le cauchemar que vivent 44 millions d'habitants depuis le 24 février dernier, lorsque la Russie lançait ses chars contre le territoire ukrainien. Ce soir à Glasgow, la sélection d'Ukraine jouera donc face à l'Écosse. Sa chance de participer à la prochaine Coupe du Monde. Il s'agit d'une demi-finale avant éventuellement de disputer un dernier barrage. Et celui-ci sera dimanche soir à Cardiff contre le Pays de Galles. Mais pour ce premier match officiel de l'Ukraine depuis le début de la guerre, l'enjeu est moins sportif que politique. Les propos et les larmes de l'international jouant à Manchester City, Oleksandr Zinchenko, pardon, ses propos en témoignent.
Tous les Ukrainiens ont le même rêve, arrêter la guerre. J'ai parlé avec un jeune Ukrainien qui ne comprend pas. Mais il m'a dit une chose, je rêve que la guerre s'arrête. Si on parle uniquement de football, on a un rêve. Et ce rêve, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Et donner des émotions aux Ukrainiens dans ces moments difficiles. Parce qu'ils le méritent.
Naïm Moniol, est-ce que cette sélection aura la concentration nécessaire pour jouer ce soir ?
Oui, parce que de toute façon, les événements font que jouer au foot aujourd'hui en Ukraine n'étant pas possible, ceux qui ont l'opportunité de le faire le font un peu pour les autres. C'est un barrage de Coupe du Monde, il y a un enjeu sportif qui est très fort, ne l'oublions pas.
Il aurait dû se disputer au mois de mars,
il aurait dû se disputer
au
mois de mars.
Il y a eu un sursis,
voilà,
disons, pour cette équipe.
Ça ne s'est pas fait pour les raisons qu'on connaît. Les joueurs, pour leur grande majorité, ont pu finir les saisons dans leur club puisqu'ils n'évoluent pas en Ukraine. Enfin, il y en a qui évoluent à Kiev, à Shakhtar, mais ce n'est pas le noyau dur. La plupart sont à l'étranger, donc ils ont pu terminer. Ils auront la concentration nécessaire. Ils auront peut-être même plus que ça puisqu'ils vont jouer pour... au nom d'une nation, attention tout de même à ne pas trop surcharger en émotion. Moi, je n'aime pas tellement quand on ajoute de la pression à la pression. quand j'entends ici et là, ou que je lis, ils vont jouer pour les soldats au front, ils vont jouer pour les populations déplacées, ils vont jouer pour ceux qui ont perdu la maison, ils vont jouer pour ceux qui ont eu la mère et la sœur de violer, ils vont jouer pour un tel et un tel. Ce sont des footballeurs qui en priorité jouent au foot.
Évidemment, ouais, mais qui ont des parents qui vivent
ce quotidien. Le contexte fait que les familles et ainsi de suite, bien sûr qu'ils y pensent, bien sûr que c'est un match spécial, bien sûr que vous jouez aussi pour ces gens-là. Mais attention tout de même à ne pas ajouter de la pression à la pression. Ils seront concentrés, ils auront très certainement, évidemment, la tête ailleurs. N'en faisons pas trop non plus.
Juste, Salim. Le cas Zinchenko est intéressant. Hier, lors de cette conférence de presse, il, à un moment donné, il a pleuré, hein, forcément.
Il pleure tout le temps, Zinchenko.
Oui,
mais c'est vrai.
Mais justement,
il pleure tout le temps, Zinchenko.
Il n'y a pas que lui, parce que Shevchenko, l'autre jour, qui était au match
de gala
de Samuel Eto'o à Milan, Matteo Cioffi, notre correspondant, nous disait que pareil, il était complètement... on lui posait des questions, il était à peine concentré, il ne pensait en fait, et il ne parlait que de ça.
Et ça se comprend encore une fois volontiers. Mais le cas Zinchenko est intéressant parce que oui, il pleure, et vous avez raison de le dire, il pleure très très souvent, mais malgré tout, sur le terrain avec City, on ne l'a pas vu pleurer. J'ai envie de dire, sur le terrain, il a répondu présent, il a été clé même dans les dernières rencontres de City.
Yarmolenko avec West Ham aussi, Yaramchuk avec Benfica aussi.
C'est pour ça, c'est ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réussi en club. Alors encore une fois, la pression club n'est pas la même que la pression sélection.
Ils sont à l'extérieur.
C'est aussi une évidence. Malgré tout, ils ont réussi à faire la part des choses quand ils étaient en club. Maintenant, j'entends volontiers, là, c'est un maillot particulier, c'est le maillot de l'équipe nationale, il y aura une pression supplémentaire. Mais comme le dit Naïm, attention dans les discours, et ça, on l'a pu le voir par le passé, même sur certains territoires ou certains pays où, qui étaient aussi en zone de guerre, peu importe le continent. Et on a eu ce genre de discours et ça n'a pas forcément aidé derrière dans les résultats sportifs. Donc, c'est délicat.
Dans un contexte différent, c'est évidemment pas comparé, mais le Brésil en 2014, à qui on avait mis une pression sur la pression parce qu'il y avait des manifestations pour la Coupe du Monde, parce qu'on mettait tout le pognon dans la construction des stades et machins, et il n'y en avait plus pour les écoles et les hôpitaux et les machins. Ils sont arrivés là-dedans blindés, ils sont arrivés là-dedans, ils se tenaient la main, ils chantaient, ils pleuraient à tous les entraînements. On sait comment ça s'est terminé en demi-finale. Quand vous arrivez et que vous mettez de fait les joueurs quasiment dos au mur en disant « vous jouez pour votre pays, hein, vous jouez pour les victimes,
mais
vous jouez pour les
souvent,
morts ».
Mais ça arrive souvent, on pense au Cameroun aussi, la dernière CAN.
Oui, mais c'est pas parce que ça arrive souvent que c'est bon de le faire.
Au contraire,
c'est même, une chose
c'est
qui,
même des fois
qui, à mon avis,
un
ne faut pas faire. C'est à mon avis, c'est un poids, oui, comme vous le dites, qui est trop lourd.
Naïm, Yoro disait « eux, ils ont... » entre guillemets, la chance ou le privilège quand même d'être à l'extérieur du conflit, effectivement. Le sélectionneur aussi est à l'extérieur, alors qu'on lui a demandé pratiquement cette mission. Elle lui a été remise par les autorités. On lui a dit, il a certes 64 ans, mais on lui a dit qu'il ne fallait pas s'engager, ce qu'il avait eu envie de faire, mais de s'occuper justement de qualifier cette sélection.
Je crois que c'est une affaire nationale en Ukraine.
Exactement.
Nous, on a cette chance, on ne connaît pas la guerre, mais pour ceux qui la vivent, croyez-moi que ce n'est pas évident. Parce que vous voyez vos frères, vos cousins, vos
tout l'entourage.
Oncles, tout l'entourage d'un joueur
concerné.
Tué, des fois
Il y a eu des joueurs qui sont morts au front, on n'en avait pas
parlé au début. Exactement. Mais tout ça, on ne peut pas l'occulter. Est-ce qu'après, ça ne va pas inhiber justement les footballeurs qu'ils sont ?
En tant que professionnels, ils arrivent sans doute à se concentrer le
temps
d'un match.
Oui, mais ils sont d'abord humains avant d'être professionnels. Mm-hmm. Justement, c'est ce qu'on oublie. Du coup, moi, je peux comprendre les larmes de Zinchenko, de Shevchenko.
Moi, je n'ai pas dit que je ne les comprenais pas.
On dit que justement, il est très sensible actuellement.
C'est ce qu'il faut.
Vous l'avez dit, ce sont des humains avant tout. Donc forcément, c'est normal qu'ils soient émus.
Alors d'ailleurs, si la guerre est dans les têtes, elle sera aussi sur le maillot, parce que la fédération ukrainienne, qui avait déjà utilisé, on s'en souvient, la tunique nationale lors de l'Euro, eh bien, cette fois-ci, avec l'approbation de tout le monde, mais surtout de l'UEFA, affichait très clairement le message. Les contours du pays sont clairement, cette fois, et non pas d'une manière subliminale, dessinés sur le maillot ukrainien. Et ils incluent, bien sûr, le Donbass et la Crimée. Je termine juste de décrire le t-shirt, le maillot Naïm, avec en guise de frontière. Alors, c'est le drapeau des pays voisins qui sont solidaires. Ça souligne le soutien international dont bénéficie l'Ukraine. Dans le dos, il y a le nom des villes ukrainiennes bombardées par les forces russes, notamment Boutcha ou Kiev. Et en plus, il y a une inscription U24, c'est-à-dire United 24. Et ça se réfère à la campagne de financement solidaire qu'a lancée le président Zelensky pour aider le pays pays à compenser les dommages subis.
Voilà. Mais ça, alors, c'est voilà, trop, par contre.
Voilà,
ça,
moi,
à l'image de Zelensky, ce que je déplore, de son président.
Tout ce que je déplore dans ce genre de choses. Tout ce que, on va prendre le footballeur qu'on très régulièrement
bah,
on critique.
On les avait justement oui, non, en 2020
que très régulièrement
déjà.
On critique en disant « Ah bah ouais, mais eux, ils sont là pour faire la pub des yaourts et des
ils
du
sont
pâté
bien payés,
de campagne,
etc.
voilà, machin. » Là, on va leur mettre le drapeau, on va les blinder de messages politiques.
Ah ouais.
Et voilà. Ça, c'est exactement tout ce que je déplore, qu'on se serve du footballeur à des fins diplomatiques, à des fins politiques, géopolitiques, parce qu'on ne me dise pas que c'est pour
vous
rendre hommage.
Vous vous souvenez
que
la dernière fois, ils avaient dû enlever le message.
Oui,
hein,
mais c'est tout,
héros,
le problème,
crois,
tout le problème est là, en fait. Mmh. Et on a eu, pour évidemment d'autres causes, on en parlait il n'y a pas longtemps pour l'affaire Gay, quand on commence à prendre les joueurs et qu'on les affuble de tous les problèmes diplomatiques, sociaux, sociétaux, politiques, géopolitiques et machin écologique, et les animaux et les femmes et oui, les trucs, non, il faut arrêter avec ça. De manière très naturelle,
la tunique est effectivement
de manière très naturelle, de manière très naturelle, c'est un match particulier. Pas parce que c'est un pays en
guerre,
mais de manière très naturelle. N'en rajoutez pas au-dessus. Et moi, je déplore que l'UEFA, que la FIFA, que les instances maîtresses tombent là-dedans.
Elles disent à chaque fois, dès que le politique s'ajoute, pas d'ingérence. Et là, tout d'un coup, on permet et facilite ce genre de choses.
Et qui ont exclu la Russie, hein, rappelons-le, parce que la Russie et la Biélorussie ont été exclus. Je ne dis pas juste ou injuste, mais en tout cas,
moi, je le dis de manière injuste.
Non, mais c'était pour des raisons politiques, en tout cas.
Oui, voilà, c'est ça, absolument.
Et non,
donc, de manière injuste.
L'Écosse en a bien conscience, vous allez l'entendre. Elle aussi est bien sûr sensible à tous ces fantômes qui planent au-dessus de la rencontre. Mais le milieu de terrain écossais, Callum McGregor, rêve lui aussi quand même de mondial.
Nous comprenons parfaitement la situation et nous avons de la compassion pour cette équipe d'Ukraine. Ce que traverse le pays est horrible. Je ne peux même pas imaginer ce que ressentent les joueurs. C'est donc logique qu'on ne parle que de ça avant la rencontre. Mais de notre côté, on doit comprendre qu'on a un objectif à atteindre. Lorsque les deux équipes entreront sur le terrain, elles seront aussi motivées l'une que l'autre pour avancer vers le mondial. On ne doit penser à rien d'autre.
C'est vrai qu'en jeu, il y a une finale pour un billet éventuel pour le mondial Euro. Cette sélection, elle n'a pas joué depuis 6 mois, mais quand même, elle s'entraîne depuis un mois en Slovénie où les joueurs ont pu se regrouper.
J'ai pitié de cette équipe écossaise parce que là, sans le dire, tout le monde veut voir l'Ukraine se qualifier à la Coupe du Monde. Voilà.
Il n'y a pas de billet automatique.
Malheureusement pour les Ukrainiens, sinon ils auraient compensé et ils pourraient partir participer à cette Coupe du Monde. Vous allez jouer contre une nation qui est en guerre. Comment allez-vous vous comporter? Déjà, on va vous demander...
Alors, les victimes de la guerre, elle n'est pas en guerre.
Oui, ouais, l'Écosse n'est pas en guerre.
L'Ukraine.
Même l'Ukraine, mais le pays est en guerre. Mm-hmm. Mais vous allez forcément, grâce à la géopolitique, essayer d'être... Fair play plus. Pas fair play, hein, mais fair play plus. Vous imaginez un petit peu comment ça va être compliqué pour cette équipe écossaise.
Moi, j'ai pensé à un truc, parce que tu as raison de dire que les pauvres, l'ensemble de la communauté internationale soutient l'Ukraine. Donc, en gros, ils vont jouer contre le monde entier. Moi, j'ai même pensé à un truc, c'est que attention au niveau de l'arbitrage, qu'à un moment donné, s'il y a une action un peu litigieuse, un truc, machin, il n'y ait pas une espèce de sursaut, ouais, une espèce de mauvaise appréciation, on va dire comme ça, de l'arbitre qui fausse le résultat global du jeu. Parce que je rappelle quand même que, du coup, l'Écosse non plus n'a pas joué depuis 6 mois. Hein, puisqu'ils devaient jouer le barrage contre l'Ukraine. Eux aussi, ils sont pénalisés là-dessus. Et que contrairement à l'Ukraine, eux, alors à une ou deux exceptions près,
ils ont joué au mois de mars.
Oui, l'Écosse, ils ont
un match amical.
Oui, ils ont joué un match amical, mais enfin, le barrage, ils l'ont pas joué non plus.
Pas
un match amical.
Et après, il y aura le Pays de Galles, bien sûr. Hein, et donc,
c'est aussi au moins aussi difficile pour les Écossais, du coup.
Juste sur un terrain beaucoup plus léger, et on l'a vu il y a quelques semaines lors de l'Eurovision, le concours musical. Il y avait plein de nations, dont l'Ukraine. L'Ukraine avec un titre catastrophique, et au final, qui a gagné? C'est l'Ukraine qui a été donnée vainqueur grâce au vote du public.
Ça aurait été la France, on n'aurait pas compris.
Mais c'est vous dire effectivement que, comme on le dit sur ce plateau, c'est que oui, tout le monde est contre l'Écosse, les pauvres Écossais aussi.
Pas contre l'Écosse, plutôt pour l'Ukraine, ce qui est, différent.
Raison, absolument.
Mais bon, que le meilleur gagne ce soir et on verra justement qui sera de l'Écosse ou de l'Ukraine dans cette finale qui aura lieu dimanche soir à Cardiff. On continue avec un autre match en territoire anglais.
C'est fini.
L'Argentine est parvenue. Lionel Messi est en pleurs. Il l'a gagné.
ce titre, ce trophée, cette Copa América avec la sélection. Ça y est, il peut mettre la main sur le trophée en sélection.
C'est Gigio Donnarumma qui offre le titre de champion d'Europe à l'Italie. L'Italie est championne d'Europe pour la deuxième fois de son histoire.
La finalissima.
J'ai pas compris le dernier son là, j'ai pas compris ce que c'était.
C'était pas à Paris,
à
en tout cas, parce que
Donnarumma
a fait un même titre à Paris, on est bien d'accord.
Alors, passons sur ces beaux souvenirs. La finalissima, ou le retour d'un match de gala dans le calendrier du football mondial sous les auspices de l'UEFA et de la Comebol, unis, rappelons-le, contre la FIFA et son mondial XXL des clubs. Hein. C'est pour ça que ce match existe, parce que c'est la troisième fois qu'il y a un match de gala finalissima, mais en fait, on les avait oubliés pratiquement. Qui a gagné le premier ?
La France.
En gros, une finalissima tous les 10 ans. Je pense que c'est politiquement ça. Donc la France avait gagné contre l'Uruguay 2-0 en 85, et puis effectivement, l'Argentine, 93, contre le Danemark. Donc, en 2022, on a cette finalissima. Allez, l'affiche est belle. Elle oppose Italie et Argentine. Une belle occasion, évidemment, pour la squadra azzurra. De retour sur la pelouse de ses exploits à Wembley, eh bien, où elle a été sacrée, je vous le rappelle, hein, il y a à peine un an, championne d'Europe, pour peut-être partir d'un nouveau pied. En tout cas, le sélectionneur Roberto Mancini espère tourner la page.
Nous avons parlé avec le président de la fédération. Nous allons nous voir après cette rencontre et nous évoquerons sans précipitation les choses à améliorer à l'avenir. Vous savez, je suis encore jeune et mon objectif est de gagner à nouveau l'Euro ou la Coupe du Monde. Bon, pour la Coupe du Monde, ça attendra un peu. Vous savez, j'aime mon travail. Je pense que je peux encore beaucoup apporter à la sélection. Je vais d'ailleurs procéder à une grande réorganisation et essayer de refaire quelque chose d'important avec les joueurs.
Yoro, est-ce que c'est vraiment l'occasion pour l'Italie de faire oublier les mauvais souvenirs récents là ? Vous avez entendu Mancini, il en sourit presque.
Oublier, ce n'est pas possible, parce que c'est quand même deux fois d'affilée que cette équipe d'Italie rate une Coupe du Monde.
Et qu'ils vont souffrir tout le mois de novembre.
Tout le mois de novembre, et puis voilà,
et le mois de décembre.
Décembre aussi, parce que c'est novembre-décembre. Une nation comme l'Italie rater deux Coupes du Monde d'affilée, ce n'est pas un trophée Artemio Franchi qui pourrait remplacer cette Coupe du Monde, surtout pour une nation qui, quelques mois avant, avait gagné la Coupe d'Europe. C'est difficile, cette reconstruction. J'aimerais voir comment. Déjà, la Serie A, ça ne marche pas trop. Je ne vois pas quel joueur extraordinaire aujourd'hui l'Italie a dans ses rangs. Je n'en vois pas.
Des joueurs extraordinaires, il n'y en a pas beaucoup non plus chez les autres.
Oui, hein. Mais bon, en France, il y en a quand même. Ouais, en Espagne, non.
Non, mais peut-être qu'en Argentine, il y en a un peu, non ?
Il y en a eu un pendant très longtemps. Il l'a un peu moins actuellement.
Il y en a peut-être des nouveaux, là.
Oui, mais même pour quelqu'un qui puisse mettre la balle au fond, l'Italie n'en a pas.
C'est vrai, là où je vous rejoins, Yoro, parce que même sans utiliser le mot extraordinaire, même des très très bons, aujourd'hui, je parle de la squadra azzurra, hein, je parle bien de cette équipe-là.
Je pense que ça a été le gros problème.
Mais, par exemple, là, on évoque est-ce que ça, c'est un match qui va permettre à l'Italie de se relancer ? Ben non, j'ai envie de vous dire très clairement, même s'il gagne 5-0, aujourd'hui, par exemple, ça va être le dernier match de Chiellini.
Ça serait quand même contre l'Argentine.
Mais le problème, c'est que. Ok, mais Chiellini, enfin, c'est pas lui qui est là pour l'avenir. Et d'autres joueurs aussi, les Bonucci qui a peut-être joué aussi. On sait que Bonucci, il est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Et d'autres joueurs également.
Ah ben, y a Chiellini qui est proche.
C'est ça, Chiellini, Bonucci et d'autres. Donc j'ai envie de dire, on a envie de fermer la page. Pour le coup, ce match, en fait, ça va être le dernier d'une page. Et c'est derrière que le nouveau chapitre va se lancer avec la Ligue des Nations, etc.
C'est pour ça qu'il a pris 39 joueurs, Mancini. Il a une liste qui est ultra élargie. Il a pris, ouais, c'est 39.
Oui, c'est ça.
À la Ligue des Nations.
C'est ça, alors, c'est ça.
Chiellini, en l'occurrence, Giorgio Chiellini, 37 ans, qui dispute son dernier match, peut-être pas entier d'ailleurs, en tant que capitaine. 117 sélections.
C'est un monstre. C'est un des derniers grands joueurs italiens des dernières années. Peut-être un de ceux qui auraient pu faire partie de la grande Italie de l'époque. Il a porté la Juve, il a porté l'Italie, il a été là dans les bons, dans les mauvais moments.
Et ça sera quelqu'un d'autre qui portera la nouvelle Italie.
On aurait aimé qu'il joue son dernier match pendant la Coupe du Monde, parce qu'il l'aurait mérité, un joueur d'une classe folle. Et un type très intelligent, en plus, pour le coup, c'est pas un bedé.
Ah oui.
Mais bon, bah, malheureusement, ça se passera face à l'Argentine sur un match de gala, plus qu'un match officiel qui compte énormément. Yoro a raison de soulever que ça n'atténue pas les blessures ou les contre-performances, en espérant que ça permette quand même à l'Italie de repartir du bon pied. au moins de ça, la Ligue des Nations, d'essayer de reconstruire, de trouver un noyau. Il n'y a pas de joueurs extraordinaires, mais il y a des bons joueurs quand même en Italie.
Il y a des bons joueurs, mais il manque surtout de buteurs. Ça a été leur gros problème récemment.
Oui, ça manque de buteurs. C'est vrai que c'est là où peut-être l'Italie était très forte pendant très longtemps et que ça pêche aujourd'hui. Mais il y a des équipes qui n'ont pas non plus de grands buteurs et qui arrivent à
exister. On avait salué le collectif à la victoire de l'Euro.
Il n'est pas là parce qu'il est encore blessé, mais il y a Chiesa, voilà. Il y a des beaux joueurs. Moi, je trouve qu'on est un peu dur avec les joueurs italiens. Il n'y a pas de grands joueurs, mais il y a des beaux joueurs. Il y a de quoi refaire une équipe qui participe à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas gagné l'Euro par hasard.
Bien sûr,
c'est pas exagéré.
C'est ce que j'ai dit. On avait salué.
Je le dis de manière un peu provocante. Merci. Mais oui, certes, les pas grands joueurs, ils ont gagné l'Euro en étant un collectif de dingue et en faisant ce qu'il faut lors de l'Euro. Donc, c'est loin d'être
équilibré. L'Argentine est arrivée très régulièrement en Coupe du Monde avec une escouade incroyable.
T'as raison.
Où tu avais des joueurs mais fabuleux à toutes les lignes et ils ne l'ont pas gagné la Coupe du Monde.
Alors, quelle est la valeur de ce trophée? Parce que les Sud-Américains, évidemment, ils auront à cœur de l'emporter, mais peut-être aussi aiguillonné de donner tort à un certain Kylian Mbappé qui, dans une, on va dire, une interview un peu décontractée, ça avait l'air sur un ton très tranquille, un peu cool, eh bien, pour la chaîne brésilienne TNT, Kylian Mbappé a donné son avis sur les favoris. Alors, non pas à ce trophée, c'est un peu plus large, mais à la Coupe du Monde. Il cite bien entendu le Brésil, mais il fait beaucoup parler Kylian Mbappé en opposant Sud-Américains et Européens. Écoutez.
L'avantage qu'on a, nous, les Européens, c'est qu'on joue toujours, nous, entre nous, et on a des matchs de haut niveau. Quand, par exemple, la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc, quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. On est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc, c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent.
Est-ce qu'il a vraiment tort dans ses propos, Salim, ou est-ce que c'est malencontreux?
En soi, il n'a pas tort. Il a même pas tort du tout. Parce que, soyons honnêtes. Non, mais soyons honnêtes. Au final, même si. Alors, le truc, c'est que ça a été mal perçu, effectivement, en Amérique du Sud, que ce soit en Argentine,
parce
même au Brésil.
Juste avant ce match.
Et en Uruguay. Hein.
Et en Uruguay. Parce que bon.
Il y a
quand même des étoiles mondiales qui sont là-bas. 5 au Brésil, 2 en Argentine, 2 en Uruguay. Donc, ce serait médisant de les mettre de côté et de se dire que l'Europe est largement au-dessus. Après, sur ces dernières années, ben, vous avez la France, vous avez l'Allemagne. Donc, il y a des faits aussi. Mais c'est vrai, c'est très étonnant de la part de Kylian Mbappé qui contrôle quand même beaucoup sa communication, qui essaie de faire attention aussi. Alors, vous allez me dire, parfois, il essaie d'être efficace et parfois, non pas saignant, mais honnête, j'allais dire.
Il peut aussi dire ce qu'il pense.
D'accord, mais quand tes coéquipiers sont Neymar et Messi, ça passe quand même moyennement de dire à ton coéquipier, en fait, bon, Lionel, écoute, ton équipe d'Argentine, elle est quand même largement inférieure à la mienne.
Et dire que ton équipe est largement inférieure, peut-être pas.
Non, il ne dit pas largement
inférieure. Il dit qu'elle est inférieure.
Il a entièrement raison.
Il dit que les équipes ont l'habitude européenne de se confronter entre elles et que ça monte le niveau.
Annie, regardez le niveau de la Copa América et des éliminatoires de la Coupe du Monde. Quand vous mettez à part le Argentine-Brésil, vous avez vu le niveau des matchs, vous avez vu le niveau des dernières Copa América, c'est faiblon. Hein.
C'est beaucoup moins fort que la Coupe d'Afrique des Nations.
Ah bah, moi, je pense que le niveau aujourd'hui.
Absolument, d'accord.
L'excuse, l'excuse habituelle de nous dire ah ouais, mais attention, c'est compliqué d'aller jouer en altitude en Bolivie.
C'est ce qu'ils ont
mais vous
sorti,
croyez que
d'ailleurs.
C'est facile d'aller jouer dans les pays nordiques au mois de février? C'est dur aussi.
Tu as raison.
La dernière Copa qui avait un niveau exceptionnel, c'était celle de 1995.
Depuis,
il n'y a plus rien. On regarde les matchs, on s'amuse.
Quand tu fabriques une compétition, que tu invites le Japon et le Qatar.
Quand on sort ces deux nations, le Brésil et l'Argentine, il reste quoi?
Ben, il ne reste pas grand-chose.
Il y a la Colombie, il y a le Chili, et parfois le Paraguay. Regardez, par exemple, le problème, c'est que, à part l'Argentine, et j'insiste, Argentine et Brésil.
Pratiquement toujours là.
Mais regardez sur les éliminatoires, où ça tourne beaucoup au final. Là, cette fois, c'est le Chili qui n'est pas qualifié, par exemple. Paraguay qui n'est pas qualifié, l'Uruguay qui a eu beaucoup de mal, mais c'est dire quand même que, à part Argentine-Brésil, mais au final, il y a quand même un écart et un gap.
La confédération sud-américaine est très portée vers le passé. C'est-à-dire que c'est une confédération qui vit beaucoup sur ses acquis, qui vit beaucoup sur ce qui ont été
qui ne remet
les grands
pas
joueurs,
en question, non, non, les éliminatoires.
Qui vit beaucoup. Ça a été une immense confédération. Le Brésil et l'Argentine ont été des nations extraordinaires. Il y a eu des décennies qui leur étaient dédiées. Même leur club était fabuleux. Dans les années 70-80, quand il y avait des Brésiliens, des Argentins qui arrivaient en Europe, ce n'était pas les derniers pimpins de l'année. C'est plus le cas aujourd'hui. Le football a changé. Les meilleurs ont changé.
Oui, mais parce ils que ils ne jouent plus à la Sud-Américaine.
Mais c'est ça. Ils jouent à l'européenne parce que les meilleurs gamins arrivent très tôt chez nous, parce que ceux qu'on leur renvoie
ils sont
pas bons.
Parce que leurs sélectionneurs aussi les font jouer à l'européenne.
Et parce qu'il y a aussi moins de pognon et que les clubs ont préféré envoyer des gamins de 16 ans pour récupérer 3 pesos.
Le pognon, c'est l'argent pour eux.
Oui, et qu'ils ont préféré envoyer des gamins très tôt au Shakhtar, au Real ou je sais pas où pour récupérer 3 pesos, c'est que finalement, ils se sont affaiblis plus qu'autre chose. C'est une réalité.
Est-ce que ce trophée a une valeur importante alors finalement ou juste symbolique
Pour les Argentins, oui, parce qu'ils adorent battre une équipe européenne. Ça, c'est
Carlos Bianchi était assis à votre place hier et on se souvient, Carlos, il l'a gagné 2 fois cette Coupe Intercontinentale de club. Il l'a gagné face au Real Madrid, notamment avec Boca Juniors.
Même aujourd'hui, vous demandez à Rai, son grand souvenir, c'est d'avoir battu le Milan AC. Il va dire, ouais, avec Sao Paulo, on a battu le Milan. Parce qu'ils adorent battre les clubs. En plus,
parce qu'ils sont enfin confrontés aussi, parce qu'elles sont rares, ces confrontations.
Elles sont rares. En plus, pour ces Argentins, où une partie, voire 40-50% de la population est italienne, c'est quand même une sorte de revanche de gagner ce match.
Il faut quand même dire un truc, c'est vrai que les confrontations sont rares. Mais parce qu'aussi les fédérations, surtout brésiliennes, quand il y a des fenêtres internationales, préfèrent faire des matchs amicaux un peu de l'argent en Asie,
au Qatar, plutôt que de venir se confronter
aux grosses équipes européennes. Ils l'ont aussi cherché.
Ils le font pour l'argent.
Et juste une petite précision sur ce Argentine-Italie qui a donc lieu à Wembley. Si les Anglais, il y a bien 2 équipes qu'ils n'aiment pas, c'est les Argentins pour des raisons politiques historiques, on va dire comme ça, et l'Italie avec le dernier euro remporté.
Plutôt dans l'autre sens.
Et je peux vous assurer que pour avoir lu la presse anglaise, en tout cas les principaux titres, cette finalissima, on en parle extrêmement peu au final. On préfère se concentrer sur les prochains matchs de l'Angleterre et autres, mais ce machin, on n'en parle quasiment pas. En Angleterre, on parle de 2 trucs en sport, le prochain match de l'Angleterre et ce qui s'est passé au Stade de France.
Gérald Darmanin a fait un excellent article dans le Sun en disant qu'il enverrait les supporters de Liverpool,
Pendant le match,
bien sûr.
Vraiment, je vous assure, aujourd'hui, la star en Angleterre, c'est Gérald Darmanin, c'est pas Argentine-Italie.
Il y a vraiment qu'en Angleterre que c'est une star.
Voilà, exactement.
Alors nous, on continue, justement, on va en parler de l'Angleterre.
Gérald Darmanin. Oh non, c'est bon.
On en parlera un petit peu à la fin, si vous voulez bien. Mais pour l'instant, on continue, on va parler d'une étoile plutôt nordique.
Utilisateur non reconnu.
C'est parti pour le géant norvégien et c'est déjà parti dans un grand club pour lui, pour ce prodige Erling Haaland. Il est la première nouvelle recrue du champion d'Angleterre. Enfin, le contrat sera signé officiellement lorsqu'ils pourront, c'est-à-dire dans un mois exactement, le 1er juillet. Mais Erling Haaland, on peut le dire, il est citizen.
Oui, hein, vu les communiqués de la part de Pep Guardiola, puisque dès le lendemain de l'annonce, hein, puisqu'il y a eu communiqué officiel et de Manchester City et Dortmund, de Pep Guardiola en a parlé en évoquant évidemment son apport. Donc oui, il sera bien un citizen, il n'y a pas de problème. Le contrat, ça se signe à partir du 1er juillet.
Voilà, et là, on le verra posé avec la photo et le maillot. En tout cas, d'autres renforts aussi sont annoncés du côté de City. Pour l'instant, on ne sait pas lesquels. Mais la question qui se pose et qu'on a envie de se poser, c'est Haaland est-il soluble dans le style Pep Guardiola ? L'entraîneur espagnol, donc, a donné son opinion et a répondu sur le cas Haaland.
Je suis très heureux qu'il ait décidé de nous rejoindre. C'est un jeune joueur, talentueux évidemment. Nous allons travailler ensemble et nous allons l'aider à s'installer aussi vite que possible en termes de vie à Manchester, de maison et bien sûr tout le reste. Et je suis sûr qu'il va très vite s'adapter aussi à notre façon de jouer. Je n'ai jamais pensé que notre défense dépendait seulement des défenseurs centraux, ni que les buts que nous devions marquer uniquement d'un seul attaquant. Alors oui, il a déjà marqué beaucoup de buts dans sa carrière, et nous allons l'aider tout au long des matchs à avoir plus d'occasions de marquer dorénavant pour nous. Et c'est tant mieux car nous devons remporter nos rencontres.
Évidemment, ma question était un peu provocante parce que, évidemment, que Monsieur Guardiola, je crois qu'on peut dire ça, a son idée, a déjà réfléchi à l'arrivée de Haaland, qui ne sera pas le seul, c'est vrai, on le sait, l'Argentin, mais il a été acheté au mercato d'hiver, Julian Alvarez,
bon
l'Argentin qui vient de River. Oui, je crois que El Jefe dire exactement comme vous, Yoro.
Bon, j'ai vu son triplé il y a une semaine, magnifique.
Ouais. Sextuplé, il a marqué 6 buts.
Sextuplé, exactement.
C'est lui qui l'a voulu ou ça fait partie aussi du jeu parce qu'on avait en gros quelques stars sur le marché et c'est bien d'en avoir une dans son équipe, Salim.
Pep Guardiola, contrairement à d'autres coachs, quand il veut un joueur et surtout quand un joueur arrive, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut lire la chose, quand un joueur arrive, c'est qu'il a donné son aval. Il y a d'autres équipes, et on le sait que ça ne fonctionne pas comme ça, où on impose au coach, tu prends ce joueur. Là, en l'occurrence, Pep, il dit, il va potentiellement donner un profil, parfois des noms, hein, mais il donne souvent un profil. Et après, on lui dit, Haaland, tu le prends ou pas dans ton système? Et là, il va dire, oui, dans mon système, ça peut fonctionner. Donc, comme vous le disiez, il y a réfléchi à la manière de jouer avec Haaland. Donc, s'il arrive, c'est qu'il le veut, clairement. C'est déjà, il faut être clair à ce sujet-là. Et c'est vrai que s'il y a des questions qui se posent aujourd'hui, c'est qu'on le voit tous, cette manière de jouer de City, cette possession de balle, le fait d'être extrêmement haut.
D'avoir souvent misé sur des joueurs de petite taille. Aussi, on pense évidemment
à Agüero, Jesus, etc. Oui, mais... et juste, c'est vrai que quand on voit notamment et quand on a vu Erling Haaland jouer à Dortmund, c'est-à-dire avec cette transition, alors vous allez me dire, City, il connaît sa transition aussi, mais le fait potentiellement d'être relativement bas et de partir, c'est vrai qu'on se dit... Comme ça, de prime abord, est-ce que ça peut vraiment coller avec City? Moi, je n'ai pas trop d'inquiétude. Vu l'intelligence aussi des joueurs qui sont autour d'Haaland, de la manière de lui donner la balle et lui, de la manière d'être positionné à la surface, je n'ai pas une inquiétude énorme.
Mais ça veut dire peut-être, Naïm, que Haaland, c'est lui qui, en fait, qui va devoir s'adapter et changer sa manière de jouer?
Ah oui, ça, ce n'est pas Guardiola qui va changer pour Haaland, c'est certain. Mais il est Guardiola compatible parce que Guardiola, la qualité première qu'il aime chez un joueur, c'est les joueurs polyvalents, c'est les joueurs qui bougent. C'est pas Pippo Inzaghi, il reste pas dans les 20 derniers mètres, Haaland. Il court, il est à la construction, on l'a vu souvent avec Dortmund, notamment Ligue des Champions.
Une vitesse incroyable. Construction.
Il est à droite, il est à gauche, il remonte le ballon. Il a quand même deux atouts avec son physique. Il a une taille très impressionnante qui lui permet d'être un point de fixation, notamment pour les petits gabarits que vous citiez. Et la deuxième chose, c'est qu'il a un jet de tête phénoménal. Aujourd'hui, un des points faibles de City dans le secteur offensif, c'est qu'il y a personne. Il y a personne pour reprendre les ballons de la tête. Donc il a de la qualité technique, il a une qualité physique. Et puis, c'est un garçon qui peut couvrir à plusieurs postes. Moi, j'ai hâte de le voir, justement, dans ce secteur. C'est vrai que si Guardiola était prêt, et City, d'ailleurs, prêt à mettre 160 millions sur Kane la saison dernière, c'était aussi pour avoir un joueur de ce registre, un type qui amenait autre chose que n'amène pas Foden, Sterling, Bernardo, Mahrez, et je peux le comprendre. Donc, moi, j'ai hâte de le voir. J'espère du fond du cœur que physiquement il va tenir parce que j'ai l'impression, en tout cas sur les derniers mois, que c'est un garçon un chouïa fragile et que le moindre coup il casse un peu. L'Angleterre c'est beaucoup plus intense que l'Allemagne. C'est juste ça, moi, ma petite réserve. Mais le jeu, le profil, l'intégration dans le jeu, la communication et la cohérence avec les autres, j'ai aucune inquiétude.
Naïm, pour corroborer tout ce que tu viens de dire, qui avait fait venir un certain Zlatan Ibrahimovic au Barça? Qui avait le même profil de Haaland à ses débuts. C'est Pep Guardiola. Même si ça n'a pas marché, c'est-à-dire, c'est pas la première fois aussi qu'il prend...
Et c'est lui qui a fait venir Lewandowski.
C'est pas quelqu'un qui n'aime pas ce profil de joueur. Il va essayer, certes, de s'adapter à la manière de jouer de Pep Guardiola, mais est-ce que c'était la pièce qui manquait sur ce puzzle pour que City puisse gagner la Ligue des Champions? Moi, je ne crois pas, parce que derrière les buts, City les a toujours enfilés, a marqué
pas,
énormément
pas qu'il
de
manquait.
Buts.
Mais qui amène un autre profil.
Ça va amener
de la diversité.
C'est
pas un manque, mais ça diversifie.
Parce que pour moi, aujourd'hui, City est plus fort avec Haaland que sans Haaland. Parce que sur les côtés, les centres, que ce soit Mahrez, Foden, etc., ça vient et c'est incessant. Avec De Bruyne, tout le temps, il y a des centres, mais il n'y a personne pour couper. Quand on a un joueur qui culmine presque à 1m93, voire 94, ça aide d'avoir de la taille, surtout en Première Ligue, mais également en Ligue des Champions. Et puis, voilà.
Il faut quand même, de toute façon, il faut quand même, au-delà de la Guardiola compatibilité, mais c'est un joueur qui est d'une efficacité incroyable. On ne se rend pas compte. 86 buts en 89 matchs à Dortmund. Et pas le meilleur Dortmund, parce que le Dortmund, il y a 10 ans, qui faisait la finale avec des champions, j'aurais compris. Ouais. Le Dortmund, là, qui est rayé pour le titre de champion d'Allemagne dès le mois de novembre, ce n'est pas la même chose.
Le type
est extraordinaire.
Et je crois que Pep Guardiola s'est préparé sur ces trois derniers mois. Il jouait forcément avec un avant-centre. Ouais. Vous suivez la
Ligue, c'est l'histoire. Mais
alors qu'avant, il n'y avait pas d'avant-centre.
Tu as bien fait de souligner ça, parce que cette histoire qu'on a entendue à droite à gauche, comme quoi Guardiola jouait pas avec des mis en œuf, c'est des conneries. Hein.
Non, c'est ça.
C'est des grosses conneries. Guardiola, quand il a un œuf qui tient la route, il l'utilise. C'est lui qui a fait venir Lewandowski au Bayern Munich. C'est lui qui a fait venir Gabriel Jesus. Agüero, il est quand même devenu meilleur buteur de l'histoire du club sous Guardiola. Quand il a un œuf qui rentre dans son projet de jeu, il l'utilise. Hein. L'histoire des faux numéro 9, c'est des conneries, ça. Hein.
Salim, il a tout pour devenir une grande star, ce joueur, selon vous.
Mais oui, le truc, c'est que, bon, déjà le sportif, on l'a évoqué, les chiffres sont évidemment là. Et malgré tout, alors, même si on a l'impression qu'il dégage, enfin, il a un visage un peu bizarre, mais non, il a une dégaine, il est marquant visuellement. Et puis, on évoquait...
Sur un terrain, surtout, il est immense.
Ah, et c'est ça, j'ai envie de dire, il est tellement puissant, rapide aussi. Hein. Mm-hmm. Son gabarit, malgré son gabarit, il a une vitesse dingue. Enfin, il a tout. Si son physique le laisse de côté, évidemment. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir comment Pep Guardiola réussit à faire tourner aussi. D'ailleurs, il l'a fait tout au long de cette saison. Hein. C'est là où la gestion du cas Erling Haaland va être intéressante aussi. Mais je me dis que oui, Haaland, il va enfiler des buts, il va en marquer. Ça peut être une star immense.
Il va quand même falloir, parce que je suppose, en tout cas, on verra, l'avenir va nous le dire, mais qu'il ne va pas garder tous ses joueurs offensifs, Guardiola. Au moins sur les côtés, il en a 4 sur chaque côté. Je pense qu'il va quand même dégraisser un peu. Il y en a très certainement qui vont partir. Bernardo Silva, a priori...
J'attends de voir.
Je ne sais pas. Bon, il va y avoir aussi toute une organisation autour de lui.
On ne sait pas, on verra. Mais si une star semble donc arriver, en tout cas va éclore, eh bien, il y a une star qui pâlit et qui s'en va d'Angleterre, ou en tout cas de Manchester United.
Shooting chance. Oh, what a shot. Pogba's coming home. It's
coming home. It's coming home. Alors, on chantait encore ses louanges à Paul Pogba à l'époque. Mais aujourd'hui, ce matin, le Manchester United, les dirigeants ont confirmé le départ de ce joueur. Le milieu de terrain français, qui a 29 ans, hein, quitte le club au bout de 6 ans et au bout de son mirobolant contrat. Il part gratuitement et avec un bilan, on peut dire, bien maigre. Il y a une League Cup, une Coupe de la Ligue anglaise
et une
Ligue Europa. Est-ce que ce joueur, Naïm, formé à Manchester United, qui était revenu après 4 saisons à la Juve, où on l'appelait Pogol et tout ça, on se souvient, Matteo, parlant de lui très, très élogieusement, a manqué son retour en terre anglaise?
Oui. Oui, absolument.
Merci. Alors, je t'en
prie. Non, mais oui, tout simplement, parce que c'est un joueur qui était revenu pour être la star du championnat anglais. Parce que quand il revient, c'est le plus gros transfert du moment.
Et le plus gros salaire.
Le plus gros salaire.
Naïm, est-ce qu'on peut expliquer les fulgurances de Pogba? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments, on le voyait notamment quand Bruno Fernandes arrive, où on a ce duo comme ça qui est complémentaire, qui s'entend bien, qui fait les beaux moments.
Pogba, c'est un garçon qui est, comme pas mal de joueurs, très affectif, qui marche beaucoup à l'affect. Moi, je pense que la meilleure période de Pogba, c'est les premiers mois de Solskjaer, quand il enquille peut-être une dizaine...
Après Mourinho aussi.
Voilà,
hein.
quand il fait une dizaine de passes décisives en 2 mois, notamment pour Rashford. C'est là où il est le meilleur, parce qu'il se sentait aimé, mis en valeur, chouchouté, au cœur du jeu. À partir du moment où il est moins la star de l'équipe, parce qu'il est blessé, irrégulier, qu'il est moins bon, c'est quelqu'un qui sort très vite. Je pense que psychologiquement, il n'est pas fort. Il a des qualités de footballeur qui sont hors normes, de base. Il a un physique qui lui permet de pouvoir s'imposer un peu partout. Mais je pense qu'il n'est pas très fort dans sa tête et donc il n'est pas très fort dans son jeu. C'est un retour raté en Angleterre, une déception. J'espère que dans les années qui arrivent, il aura de meilleur rendement, qu'il se sentira un peu mieux là où il va atterrir. Mais si je suis supporter mancunien aujourd'hui, je suis extrêmement déçu.
Son âge, il a quand même 29 ans. C'est vrai qu'on est en train de se dire, j'espère que dans les années qui viennent. Mais au final, il n'y a plus tant d'années que ça. En fait.
Il en a 3-4.
C'est ça qui est terrible, parce qu'au final, les 6 années qui viennent de se passer, à part quelques moments, on l'a dit, où il a été exceptionnel, mais au final, j'ai presque envie de dire, c'est presque 6 années gâchées. C'est terrible.
Il y a même, d'ailleurs, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'adieu à Old Trafford.
Non, mais d'ailleurs, il était blessé à la fin.
Oui, c'est ça, il n'a pas fait les derniers matchs.
Vraiment, s'il était réellement blessé, moi, je me suis posé la question.
On ne le saura jamais, mais vous imaginez, c'est même Ralf Rangnick au détour je m'en souviens très bien, on l'avait diffusé sur notre antenne, avant un avant-match d'une rencontre, où il dit, oui, a priori, Paul Pogba ne sera plus dans mes plans la saison prochaine. Mais vous voyez, c'est Ralf Rangnick Rougnick qui le dit au détour d'une pseudo-question, oh, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Paul Pogba, sa fin, elle est morose, elle est mièvre. On l'oubliera très... C'est triste de le dire comme ça, mais c'est, on va l'oublier très vite.
En tout cas, on peut peut-être se dire qu'il est blessé parce qu'il ne va pas avec l'équipe de France. Où là, quand même, vous parlez d'amour et de chouchouter quelqu'un, Didier Deschamps, là, toujours protégé. Et là,
toujours cerné.
Et il lui a rendu, d'ailleurs. Mais justement, Yoro, est-ce que vous le voyez, allez, renaître, tel un phénix, renaître à la Juve, où il a déjà été heureux,
mais est-ce que...
Alors, il y a des rumeurs, je sais bien. Mais par exemple, retourner à chaque fois, est-ce que finalement, il ne faudrait pas un nouveau défi, carrément ?
C'est possible, parce qu'il a énormément de talent, ce garçon, sauf qu'il a été victime à Man United.
C'est fulgurant, ce talent.
Ouais, il est très fort.
C'est pas constant.
Justement, pourquoi ? Parce que déjà, à Man United... Qu'est-ce qui peut me dire aujourd'hui le poste de Paul Pogba après 6 ans à Manu ? Personne. Devant la défense, 6, 10, du côté gauche, côté droit, milieu axial. Il a été victime aussi de sa polyvalence. Il n'a pas trouvé un poste clé comme à la Juve. Tout le monde savait qu'il joue sur le côté gauche du milieu de terrain.
Si je peux me permettre, Yoro, il y a deux choses. Il y a le poste auquel on le met et au poste auquel lui veut jouer. Oui. Lui, il a toujours voulu se prendre pour un 10. Alors qu'il n'a pas les qualités physiques, ni les appuis, ni le jeu, ni la technique sur le petit jeu, dans le jeu court. Ses vraies qualités, son vrai poste, c'est à deux devant la défense. Il y en a un qui défend sa place et lui, il est dans le jeu long. C'est là où, en moitié 6-8, c'est là où il est très fort. Mais après, à sa décharge, les entraîneurs l'ont aussi utilisé pour combler les trous. Et lui-même a fait son petit cinéma à un moment donné pour se prendre pour ce qu'il n'était pas et essayer de monter plus haut. D'ailleurs, c'est un garçon qui a une inefficacité assez folle devant les buts. C'est pas un mec qui marque beaucoup. Moi, Kanté pour le coup.
Et de toute façon, à la Juve, c'était clair et net. Il y avait Vidal sur le côté droit, Pirlo derrière, devant la défense, et lui sur le côté gauche. Pendant des années, après, à force de répéter à l'entraînement ce système avec trois milieux, il avait pris ses aises, il marquait des buts de loin, il était en confiance. Et là, cette confiance, il l'a perdue.
C'était pas une star à la Juve. C'est ça.
Exactement.
Aussi. C'était
ça aussi,
pas une star. Je pense que là où ils l'ont flingué de base, c'est qu'ils l'ont...
Il est arrivé
comme un demi-dieu, je vais réinventer le poste de milieu de terrain. En Angleterre, bonhomme.
C'est pour terminer, Salim.
C'est vrai qu'on me dit souvent, je crois comprendre qu'il ne faut jamais retourner avec ses ex, en général. Mais,
oui, c'est vrai, on m'a dit ça aussi.
Mais c'est vrai que cette calinothérapie qu'on évoquait, mais à la Juve, on sait que les supporters, en tout cas, ça s'est bien passé, son premier passage à la Juve, donc... Si c'est bien la Juve, il va être bien accueilli.
Vous les avez entendus chanter les louanges de Pogba quand il est arrivé.
Je veux dire, il va être sans doute bien accueilli. Donc, les premières semaines, les premiers mois vont bien se passer si c'est bien la Juve. Après, le problème, c'est d'une part le physique. Et effectivement, dès qu'il y a un coup de mou, est-ce qu'il va pouvoir psychologiquement rebondir?
Ce qui est terrible, c'est qu'il n'était pas dans les plans de Rangnick. Et ça veut dire donc qu'il n'est pas dans les plans de Ten Hag.
Ouais.
C'est-à-dire que le mec, il a 29 ans, il est champion du monde, c'est sa 6e saison, c'est un des plus gros salaires, il est normalement un des cadres parce que Ronaldo est sur la fin, parce que Cavani va s'en aller, parce que les meilleurs joueurs vont s'en aller.
Et on le met à la porte.
Et le type, une des premières choses que le nouvel entraîneur fait, mais c'est ça, on ne le garde pas, il s'en va. Mais c'est terrible, le message envoyé pour Pogba au reste de la planète foot est terrible, parce que vous savez, les autres clubs, ils sont pas idiots. S'ils voient qu'ils ont vu son passage à Manchester, ils voient qu'il n'est pas conservé par le nouveau coach dans le nouveau projet, les mecs, ils vont se dire, attends, on va pas claquer je sais pas combien d'oseilles pour un type comme ça, pour qu'il fasse 10 matchs dans l'année et pas, en plus, pas forcément des bons matchs.
Continuons et terminons, Yoro. Avec Sadio Mané, le champion d'Afrique. Alors lui, c'est 6 saisons à Liverpool, 267 matchs. Est-ce que le gamin de Bambali, qui est évidemment très courtisé, on parle du Bayern Munich, ce qu'a défendu démenti plutôt son agent, le PSG, paraît-il, lui ferait aussi des avances. Est-ce que selon vous, il va quitter Liverpool ?
Ça, c'est sûr. Il va quitter, il va partir où après ? Je ne sais pas. Parce que Liverpool ne peut pas se permettre de prolonger les deux joueurs, Salah et Mané. Est-ce que Mané va accepter de jouer une année sans prolongation pour être libre la saison prochaine? Je ne crois pas. Et puis, entre Mané et Klopp, c'est « je t'aime aussi, mais ». Voilà, donc c'est un peu la
formule. C'est une belle formule, ça, par le coup.
Je t'aime aussi, mais dans mon cœur, il y a Mohamed Salah. Quand ils amènent Luis Diaz, c'est quoi? C'est pour c'est pour juste cette transition, parce que Mané va partir. Ce poste d'avant-centre depuis 6 mois, ce n'est pas son vrai poste. Il s'adapte et il marque des buts, il est obligé de le mettre.
Il est plutôt bien en plus, il est impressionnant.
Tu ne peux pas reprocher à un club d'assurer ses arrières. Même si Sadio Mané a apporté énormément à Liverpool, Liverpool a raison de faire venir un joueur dans l'optique du départ de Mané et de l'intégrer déjà. Et quand on voit le niveau de Luis Diaz, ce n'est pas une erreur.
Et pour le coup, Liverpool aussi fait ce genre de choses, parce qu'il y a aussi le cas Firmino, on ne sait pas si lui va revenir en forme, etc.
Diogo Jota, t'as vu les buts qu'il met.
Donc, à un moment donné, c'est normal aussi que Luis Diaz arrive. Et forcément, ben, ça peut précipiter le départ de Mané.
Ça peut gêner. Mais pour vous, il est partant aussi ?
Oui, enfin oui. C'est vrai que c'est la sensation. Là. On parlait de chapitre tout à l'heure avec l'Italie. Et on a l'impression que le chapitre Liverpool est sur le point de se terminer avec Sadio Mané. Il a écrit des pages et un bouquin magnifique avec cette équipe de Liverpool. Et à un moment donné, on se dit, bon, est-ce qu'il... Pour passer ce cut, le Bayern, ce ne serait pas une bonne chose pour potentiellement une autre tentative de gagner la Champions? Parce qu'on parlait effectivement, je crois que c'est Bild qui évoque la piste Paris Saint-Germain. Je me dis, mais on sent surtout si Neymar,
Paris Saint-Germain,
Mbappé...
il est sur tout le monde.
Si on parle de Liverpool, si on évoque la concurrence à Liverpool, pardon, mais quand tu vois le trio devant, tu dis, Sadio... Même si t'es un super joueur, la question se pose même pas.
Même
si mais à un moment donné, tu vas rentrer dans un truc.
Même si les autres n'étaient pas là, qu'il avait une place de titulaire, Mané à Paris, c'est une régression.
Absolument d'accord.
Il va finir dans un bar à tapin avec PMB, ça va être une honte. Faut pas qu'il y aille.
Va au Bayern.
Il aurait donc sans doute joué son dernier match avec les Reds au Stade de France. Ce Stade de France dont on parle encore beaucoup, avec ce chaos autour de l'enceinte qui a quand même vu la France gagner sa première étoile, cette Ligue des Champions. Du côté de l'Angleterre, on ne décolère pas, Salim. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le directeur exécutif de Liverpool annonce qu'il y a plus de 5000 formulaires, c'est-à-dire 5000 témoignages qui ont été pour l'instant enregistrés. Parce que finalement, les autorités françaises jettent la responsabilité sur ces pauvres supporters anglais. Et je crois qu'on peut dire pauvres parce qu'ils ont été plutôt victimes qu'acteurs de tout ce qui s'est passé. Et ils voudraient en fait contrecarrer ce qu'assurent les autorités françaises.
C'était il y a 2 jours, si ma mémoire est bonne, Liverpool qui a publié un message sur son compte Twitter. J'insiste sur le mot Twitter parce qu'il y a des millions et des millions d'abonnés, en l'occurrence sur ce compte Twitter de Liverpool, en disant justement, n'hésitez pas avec vos témoignages, etc. etc. Donc vous imaginez quand même
plus tous ceux qu'on a déjà vus ici en France.
Absolument. Donc en termes de visibilité potentielle et de supporters touchés par ce message, c'est évident, colossal. C'est pour ça qu'il y a eu déjà autant de témoignages. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont mal perçues. Gérald Darmanin, alors j'exagère en disant l'homme public ou l'ennemi public numéro 1, mais pas loin. Il est critiqué par tout le monde, même les grandes personnalités du foot. Gary Lineker, qui est ô combien écouté en Angleterre, l'a critiqué en français d'ailleurs, j'utilise ce terme, c'est des conneries. C'est en français dans le texte pour critiquer les mots de Gérald Darmanin dernièrement, qui expliquait que...
Des politiques aussi.
Absolument, des politiques aussi, Boris Johnson qui y allait et bien d'autres.
En Espagne et tout.
Bref, c'est vous dire à quel point la France...
Parce qu'ils sentent qu'ils sont victimes d'une injustice, c'est ça le problème.
Et qui sont pointés du doigt parce que...
Qu'il soit accusé injustement,
c'est une affaire d'État.
J'insiste parce que l'accusation qui est faite, la manière dont les accusations sont faites, voilà, je le dis comme ça, ça ressemble par séquence à ce qui s'est passé en 1989 avec Hillsborough, quand à l'époque la police avait pointé du doigt les supporters
accusés pendant 20 ans.
Absolument. Et c'est la même manière quand Gérald Darmanin dit c'est les supporters, quand Gérald Darmanin dit c'est les supporters qui avaient des faux billets, c'est les supporters qui ont été arrêtés en masse encore aujourd'hui devant le Sénat aujourd'hui. Exactement. Il a dit que la majorité des supporters qui sont passés au-dessus des grilles ont été anglais. J'aurais dû dire, mais montre-nous les images. Alors, il n'y a aucune image qui atteste ça. C'est incroyable. Et Gérald Darmanin, on verra ce qui se passera dans les prochains jours, mais il est détesté, utilisons le terme, en Angleterre aujourd'hui.
C'est une affaire d'État. On ne se rend pas compte à quel point c'est
grave. Absolument.
Et si Emmanuel Macron...
Je pense qu'on s'en rend compte.
Emmanuel Macron était un bon président, il virerait Darmanin sur le champ. Mais c'est une honte intégrale. Mais vous vous rendez compte, la honte pour la France, en tant qu'organisation, en tant que pays de football, en tant que régime politique, quelle honte.
On se moque. Mais utilisons d'autres termes, par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, par rapport à la Copa América, par rapport. Mais ce que la France a fait, Il n'y a même pas de mots,
mais
en fait.
Surtout que hier dans cette émission, eh bien, on a parlé de la finale de la Ligue des Champions d'Afrique.
Qui était magnifique.
Vous avez vu,
belle finale.
67 000 personnes dans le complexe Mohamed V de Casablanca. Des gens qui chantaient, des gens qui sont arrivés, qui ont été, qui sont rentrés dans le stade en bon ordre, qui en sont ressortis pareil. C'était absolument magnifique. Absolument. Et nous l'avions dit hier. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir animé avec force cette édition de Radio Foot International. On se retrouve demain. Merci à tous.
Made in France.